la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, il y en a plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers lecteurs, chères lectrices. Merci d'être à l'écoute de votre émission littéraire, Un livre sur le zinc, en partenariat avec la médiathèque départementale de la Lozère et la librairie, la livrerie où on se trouve actuellement, une émission que l'on va dédicacer aujourd'hui à Oscar qui vient de voir le jour, et on embrasse tous d'ailleurs sa maman. Ce soir, une émission qui aurait pu s'intituler « Mots et saveurs » car nous allons explorer les liens délicieux entre la littérature et la nourriture. Attention, tout type de nourriture, nous allons nous nourrir d'amour, déguster des sentiments et au-delà de ça, du repas partagé. Dans un des livres présentés ce soir, il est dit « Ce que l'on partage lorsque l'on mange ensemble, ce n'est pas de la nourriture, mais de l'amour. » Et oui, l'amour de ces repas de fête de fin d'année. Avouons-le, les repas de fête de fin d'année, c'est un peu comme un roman, plein de personnages improbables, des rebondissements inattendus et toujours un peu de suspense. Qui va sortir la conversation qui fâche? À quel moment le cousin va être bourré? Les blagues de l'oncle Salas? Qui va raconter l'histoire qu'on a déjà entendue 36 fois? Ah, ce n'est qu'amour. Mais revenons à la littérature où les écrivains nous invitent à une table où les mots se dégustent comme les plats les plus raffinés. Et pour les dresser, nous avons invité la crème de la crème, les chroniqueurs les plus mordants de cette émission. Salut Marlène.
Salut.
Oh Marlène, tu cries aujourd'hui, ouais. T'es en pleine forme.
Pourtant non.
Je vais baisser un peu. Oh, tu t'es emballé. Non mais c'est bien, tu es en forme, ça me fait plaisir. C'est la dernière émission de l'année, t'es prête pour les fêtes de fin d'année. Okay. Allez, salut Elodie.
Et bonjour.
Comment ça va, Elodie?
Impeccable, toujours au top.
Toujours au top. Eh bien, tu as bien raison. J'ai vu que tu avais aidé Valérie pour donner les livres que les clients venaient chercher pour
avec
les fêtes de fin
d'année.
Avec un grand succès.
Je suis à l'avance.
Ah, ouais. C'est pas facile, l'ordre alphabétique.
Non, c'était une catastrophe. Oui, non, ce qui est pas facile, c'est d'avoir des mains en chamallow, surtout.
Deux mains gauches.
Thomas a laissé ses informations pour nous rejoindre ce soir. Salut Thomas.
Salut Ludo, salut tout le monde.
Et Valérie qui est là, bien sûr, qui nous fait l'honneur dans un calendrier surchargé d'être présente. Merci Valérie.
Bon, surchargé, pas plus qu'un bon mois de février. Hein.
Ah, bah, c'est très bien. Alors je sais pas, j'ai vu plein de monde, on a dû se cacher dans...
Nous aussi, on s'est posé la question, quel était l'engouement pour la littérature d'un coup.
Écoute,
non,
c'est bien.
C'est décembre, hein. On travaille un mois par an, donc c'est là.
Ouais, mais c'est très bien, il faut offrir des livres à Noël, c'est
absolument
important, au pied du
absolument
sapin. Oh, le petit lutin de retour, salut Maxime, ça va?
Bien le bonjour, bonjour à tous.
Ça me fait plaisir de te revoir dans cette émission. Bon, il était venu il n'y a pas longtemps, hein, dans une des dernières...
Je crois qu'il avait fait la New Romance, non?
La New Romance.
J'avais pas fait la New Romance, non, j'étais... c'était Les Essais, moi, vraiment, ça
ah,
ça date. Hein.
Cette très belle émission, ouais, ça date. Elodie, on va commencer par toi avec un roman subversif à l'humour grinçant. C'est La femme comestible de Margaret Atwood.
Oui, absolument.
Ah oui, je t'avais dit que tu commençais par l'autre livre.
Mais c'est pas grave, je rebondis, t'as un petit cadeau. Ne t'inquiète pas. Donc oui, Margaret Atwood, son premier roman, elle avait 30 ans quand elle l'a écrit, l'excellente Margaret, écrit au début des années 60, publié en 69, donc quelques années plus tard. Margaret Atwood, là, qui est dans une œuvre un peu précurseur, qui c'est vraiment à découvrir. Moi, La femme comestible, je ne connaissais pas du tout. On y voit tous les prémices de La servante écarlate, évidemment. Et on est en plein féminisme avant l'heure. Donc, je vous raconte un petit peu l'histoire. C'est celle de Marianne, qui est une jeune femme qui travaille dans le marketing. Alors, marketing, c'est un bien grand mot. En fait, elle fait du sondage en porte-à-porte sur des produits qu'il faut mettre sur le marché. Et elle se retrouve soudainement incapable de manger après s'être fiancée. Là, c'est une métaphore qui va illustrer comment elle va se sentir progressivement dévorée par les attentes de la société. Donc, c'est très moderne. C'est même moderne à faire peur, hein, ce roman. Il aurait pu être écrit l'an dernier. Bon, alors, bien sûr, il n'y aura pas de portable ni d'envoi de mail. Mais vraiment, il aurait été écrit hier ce livre.
Alors, quelle année
Là, on est en 69 quand il est édité.
C'est 69, c'est ce que tu disais.
Voilà, c'est
d'accord.
Ça. Donc,
bien avant La Servante Écarlate.
Mais bien, bien avant, puisque c'est son premier roman. Il est un peu moins subtil, hein, elle y va un peu à la truelle sur sa dénonciation un peu du système patriarcal.
Belle image, Marlène, elle y va à la truelle. J'espère que tout nous...
C'est même c'est les expressions qu'elle a toute la journée au boulot.
Oui, et donc du coup, c'est un roman qui aborde quand même des sujets à travers cette métaphore de l'alimentation, des sujets tels que le mariage, la maternité, le capitalisme, cette façon de consommer qu'on a. Et cette Marianne, des fois, elle pète un câble complètement, on ne comprend pas ce qui lui arrive, elle se cache sous des lits, elle part en courant, et elle n'arrive plus à absorber de nourriture. Donc c'est vraiment la thématique de l'alimentation que j'ai choisie. Elle est plutôt sur celle de la restriction, une métaphore par rapport à cette société de consommation. Donc c'est un livre un peu drôle et flippant à la fois, un peu comme disent les jeunes malaisants. Hein, voilà. Voilà, une sorte de déshumanisation de la femme qui est un très beau Margaret Atwood et que je conseille. Donc, voilà. Après, des choses un peu dérangeantes dans la lecture narrative. Elle passe un coup à la première, un coup à la troisième personne, puis elle repasse à la première. C'est fait exprès, c'est censé imager un peu la déconstruction du personnage. Moi, ça m'a vraiment déstabilisée. Mais bon. À lire vraiment, c'est grassant, c'est inconfortable, mais c'est du beau Atwood, donc voilà.
C'est une féministe, hein. Elle a écrit beaucoup de dystopies féministes. On le retrouve un peu.
Ah, complètement. Là. Marianne, elle sait à partir du moment où elle se fiance et où elle doit rentrer dans un carcan, rentrer dans les cases qu'on lui a attribuées, que tout se détraque au niveau de son alimentation. Donc voilà, elle essaye de se trouver un amant un peu. Bon, d'ailleurs, ça ressemble à rien, cette relation. Mais voilà. Et elle a une coloc, cette Marianne, qui est super, qui est une femme un peu déjantée, qui va faire un enfant dans le dos à un gars, enfin, qui est très moderne pour l'époque, enfin, je veux dire, pour les années 60. Et quand elle apprend qu'en fait, elle ne peut pas élever le gosse tout seul, parce que s'il n'a pas l'image du père, alors elle lui dit, du coup, il faut que tu sois père, t'assumes. Enfin bon, c'est un peu foufou, cette histoire. C'est vraiment un roman moderne qui a été écrit il y a 50 ans, donc c'est vraiment, je vous le conseille, à découvrir.
Traduit dans plus de 35 langues, hein, tous ses romans, et c'est vraiment une autrice très connue, ouais. Hein, qui a marqué toute une génération.
Et elle parle très bien français, enfin très bien. Elle ne parle pas très bien français, mais elle se débrouille. J'ai écouté quelques interviews d'elle et elle est assez intéressante. Elle repasse vite à l'anglais, mais elle est sympa à écouter aussi en interview.
Alors, elle est née en 1939 à Ottawa, au Canada. Elle est fille d'un entomologiste. Alors, je n'ai pas demandé à Maxime ce qu'est un entomologiste, parce qu'il
le sait.
Marlène, tiens, au hasard. Elle serait plutôt un entomologiste, un spécialiste de quoi? Tu ne
sais
pas.
Des insectes.
Des insectes. Très bien, mais toi, tu as bossé, tu le savais, Maxime, rassure-moi.
Pas du tout.
Ah, mais tiens.
Mais non, si, comme Jean-Henri Fabre, la Véronée voisin.
Et voilà. Et donc, elle a passé une grande partie de son enfance dans les forêts du Québec où son père étudie les insectes. C'est pas mal comme enfance, quand même. Oh, tiens, bonjour Valérie. Bonjour. Je t'avais pas vu encore. Viens, installe-toi.
Je fais le ménage et j'arrive.
Vas-y, fais le ménage et on t'attend. Marlène, merci beaucoup. Elodie, tu veux lire un passage ou pas, ou plus tard?
Oh non, j'aurai plein de petites anecdotes après.
D'accord, mais on garde tes anecdotes. tu as mis ton pull à l'envers, par contre, non?
Hein, c'est non. Petit ce que tu entends.
C'est pas beau, mais je raconterai pas pourquoi. Marlène, je mange bien, ne t'en fais pas. Quatre récits de cœur et de cuisine. Alors, je n'en aurais pas fait les biographies, vu qu'il y a quatre auteurs-autrices. Il y a Kakuta Mitsuyo, Inoue Areno, Mori Eto et Ekuni Kaori. Ça sent le Japon, cette histoire.
C'est ça. Quelle japonaise. Oui, super. Alors là, je vais casser l'ambiance. Hein. Je dis tout de suite.
Oh non, bah, si. C'est les fêtes de Noël.
Mais
on a dit que des romans sympas.
Et je suis restée sur ma faim, tu vois.
Ah.
Non, mais donc tu l'as dit, quatre nouvelles qui tournent autour de la nourriture. En fait, tout se passe autour des repas, mais ça raconte des vies différentes. Alors, des vies... donc il y en a une qui se passe au Portugal, il y en a une, je sais plus, je crois que c'est en Bretagne. Enfin, il y a quatre lieux différents, mais c'est tout autour des drames, en fait. Donc c'est pour ça que c'est assez triste, parce qu'au final, on mange... Alors, qu'est-ce que j'ai marqué ? On mange pour vivre, mais ici, en fait, on mange autour des scènes de vie. C'est pas pour le plaisir, mais souvent, c'est là où on va apprendre la maladie d'une personne, où on va... découvrir que du coup une femme prépare le même plat depuis des années, la porte tous les jours à l'hôpital à son mari qui est je vais faire un sale jeu de mots, un légume.
Oh, je suis désolée. C'est ça.
Voilà. Voilà, en fait, c'est des scènes de vie un peu partout. Et c'est vraiment les plats qui vont faire le lien, en fait. Donc, sur ces quatre nouvelles, c'est aussi les plats qui font le lien. Alors, on a un petit peu de description de certains plats, notamment quand on est au Portugal avec les traditions. En Bretagne, on va être vraiment autour de la crêpe et avec une bataille de famille entre la crêpe qui doit être au sarrasin à la base et les autres parisiens qui vont plutôt la faire avec de la farine...
Et oui, j'ai vu qu'il y avait le Pays Basque, tout ça, mais quel voilà, rapport c'est... avec des Japonais, pourquoi
ils ben, vivent en... ben en fait, je sais pas, elles ont voulu écrire sur d'autres cultures et d'autres façons d'approcher la nourriture, parce qu'au Japon, c'est pas tout à fait comme nous. Si je me rappelle bien les émissions qu'on a fait autour du Japon, la nourriture est liée, mais c'est pas là où ils font le plus de partage et le plus d'échange. Nous, on est plus dans des cultures où le repas est au centre de nos vies au niveau social. Et du coup, je pense que c'est ce qui les intéressait. Enfin, si j'ai bien compris la démarche.
Alors, la phrase que j'ai sortie dans mon introduction tirée d'un livre, c'était ce livre, hein, ce que l'on partage lorsque l'on mange ensemble, ce n'est pas de la nourriture, mais de l'amour.
Mais j'ai bien.
Donc, c'est quand même plutôt positif.
Ouais, mais en fait, c'est tout le temps autour de deuil ou de maladie. Donc, en fait, c'est très triste. Et à la fin, à chaque fois, ça finit par ça. D'ailleurs, le titre. Je mange bien, ne t'en fais pas. C'est une jeune femme qui vient de perdre sa maman et en fait, elle en veut énormément à sa famille parce qu'elle a appris le cancer de sa mère lors d'un repas de fête. Et à chaque repas de fête, on reparle de la maladie de sa mère jusqu'à ce que la maman décède.
Est-ce que c'est pas pendant les repas qu'on annonce ce genre de choses?
T'as écouté les 5 dernières minutes dont j'ai blablaté ou pas,
Maxime?
C'est exactement ce que j'ai dit.
C'est une question pour Maxime. Non mais tu n'en étais pas sûr.
D'accord.
Non, tu n'en étais pas sûr, non? Non, Elodie, elle suit pas. Elodie, elle a perdu son micro. Garde ton micro, Elodie.
Donc c'est ça, et c'est ce que sur la démarche des Japonais, je pense qu'elles sont venues là-dessus aussi par rapport à ça.
D'accord.
Parce que chez nous, plus les pays européens qu'elles ont choisis, c'est le repas est à la base de notre vie sociale.
Non, mais ma question c'était, est-ce que ce sont des annonces qu'on fait pendant ces moments précis, tu vois?
Eh bien, justement, non, c'est pour ça que dans la nouvelle, elle l'a mal pris, c'est pour ça qu'elle a dit qu'elle parle à sa mère qui est décédée en disant, par rapport au titre, c'est ce que j'expliquais, en fait.
Okay.
Qu'elle en veut à sa famille d'avoir appris des choses tragiques pendant un repas de fête.
Voilà,
tout à fait.
Ça peut être pendant un repas, non, pas de fête, mais je sais pas.
Enfin, je sais pas, moi, c'est même pas un repas tout court parce que ça coupe un peu l'envie de manger, non?
Mais en fait, c'est pas tout court, quoi. Ce sont des nouvelles que tu n'as pas envie d'apprendre, donc ça arrive n'importe quand.
Mais là, encore moins autour d'un repas.
Ouais.
Donc voilà.
Le dessert, quoi. On a fini de manger.
Ouais, le dessert, au café.
Pas, tu vois.
Au Dijon.
Parce qu'après, tu vois, il y a.
Allez, je vais en reprendre un, tiens.
Là, pour le coup, on reprend.
Ok, ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire, Marlène, sur... Oui, alors, j'ai appris, en travaillant tes livres, qu'il y a certaines personnes qui pensaient que c'était un peu trop mélancolique, que c'était un rythme un peu trop contemplatif. Voilà, mais c'est peut-être des personnes
japonais.
Qui ne sont pas habituées à la littérature japonaise
oui,
aussi.
Je pense.
C'est tout le temps très lent, très doux. Ce qu'on disait à chaque émission, on parle du Japon, lui aussi, il était attentif.
Mais arrêtez un peu, c'est ma fête.
C'est très descriptif aussi. Non, mais moi, je n'ai pas trouvé le rythme. Non, ça me convenait tout à fait. Mais par contre, c'est vrai que c'est triste.
D'accord. Ok, tu conseilles ou pas, finalement, parce que tu...
Oui, alors ne pensez pas que c'est pour des repas de fête et pour voilà. Mais si
vous aimez pas votre oncle à Noël, hop là, cadeau. Tu verras, c'est génial. T'aimes la bonne bouffe, le sanglier.
Bon, après, on peut prendre le contre-pied aussi. On peut dire il se passe des choses tristes dans notre vie, donc je t'offre ça, mais nous, on passe des bons moments, quoi.
Ouais.
Bon, ok.
Ouais, ok, merci Marlène de ta belle sélection, comme chaque fois.
Alors, à ma décharge, celui-là, ce n'est pas moi qui l'ai choisi.
Ah, d'accord. Très bien. Mais écoute,
je ne dirai pas qui. Ce n'est pas Marie-Jeanne.
On ne dirait pas qui, c'est pas Marie-Jeanne. On sait que c'est Marie-Jeanne à chaque fois. Valérie, allez, un roman carnassier maintenant. On va parler du chef, le chef d'Harry Cressing.
Il va falloir que tu m'expliques pourquoi tu dis que c'est un roman carnassier.
Mais c'est toi qui vas me l'expliquer, c'est toi qui l'as lu.
Oui, mais c'est toi qui as dit que c'est un roman carnassier.
Parce que quand je l'ai travaillé, il est présenté par son éditeur comme un roman carnassier. Donc d'accord. Si tu as un problème, non, tu écris à son éditeur absolument. Et tu dis « La présentation de votre livre n'est pas très bien, je l'ai vendu à un client. »
Exactement, parce que j'ai hésité de vous parler de viande. Et là, on aurait pu dire que c'est un roman carnassier. Mais là, le chef, non. Alors, c'est un petit ovni, mais donc tu n'as rien de plus travaillé sur ça.
Si, tu veux que je te parle d'Harry Cressing ?
Un petit peu, si tu sais.
Parce c'est un nom de plume, ce n'est pas son vrai nom. Harry Adam Rubert. Mm-hmm. Alors, on connaît peu de choses sur lui, quand même, à part sa naissance à New York et ses études à l'université de l'Indiana.
Ouais.
Il a vécu en Angleterre, en Irlande. Il a écrit Le Chef en 1965, succès mondial, régulièrement republié. Et en 2021, pour la première fois en France, chez les éditions du Typhon.
Absolument.
Voilà, je m'arrêterai là.
Parce que tu n'as pas rien trouvé de plus.
Non.
Mais parce que ce livre est un ovni.
Et oui.
Et qu'on ne sait absolument rien de plus. Et c'est le livre...
Un livre carnassier.
Alors, à moins qu'on n'ait pas la même définition de carnassier, mais j'y vois pas le côté carné. Mais effectivement, puisque notre thème aujourd'hui, c'était les agapes ou le fer bombant, ça, c'est parfait. Le chef, c'est l'histoire d'un personnage, étrange, qui est démesurément grand, qui est un peu inquiétant et en même temps très attirant. Ce genre de personne où on sait qu'il ne faut pas s'approcher, mais en même temps, on est omnubilé par cette personne. Et ce chef arrive dans un petit village, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, la ville de Cobb, voilà. Et quand il arrive pour aller se mettre au service de personnes qui habitent dans un château sur la colline de Cobb. Et il arrive dans le village, il rentre dans toutes les boucheries du village, il y a 3 ou 4 boucheries, et il insulte tout le monde en disant... En gros, ce que vous vendez, c'est nul. Là, vous arnaquez les gens. Il jette un rôti par terre parce qu'il était mal ficelé. Enfin, il fait le tour des commerces de bouche avant d'aller se présenter à ses potentiels employeurs. Et déjà, ça met une sorte d'étrangeté dans le roman, mais aussi dans la ville de Cobb qui voit arriver cet étrange personnage qui est aussi très, très grand, très, un peu limite famélique alors que c'est un chef. Et il prend la route vers le grand château où vit la future famille pour qui il va travailler. Et là, dès qu'il arrive, il sort une lettre de recommandation. Il a travaillé pour les plus grands chefs, il est recommandé par tout le monde. Et la famille trouve ça étrange qu'il accepte de venir faire à manger pour un cuisinier personnel,
oui,
en fait, par rapport à tout ça. Mais ils se disent, après tout, il accepte un salaire ridicule, on va quand même le garder. Et il l'embauche. Et là, on est... il est passé 20 pages seulement du livre. Et il l'embauche. Et là, ça devient fabuleux. Parce que petit à petit, ce chef cuisinier a une espèce d'emprise sur la famille. Mais c'est succulent. Alors, et tout autour de la nourriture. Hein, je suis vraiment restée dans le thème. Et c'est grâce à sa nourriture qu'il arrive à faire tourner la tête de tout le monde. Mais en même temps... On sent qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a quelque chose qui est sous-jacent dans son histoire. Et on sait aussi que cette famille-là qui habite dans le château, juste avant, il y avait des décennies auparavant, les deux familles se détestaient, en fait, se vouaient une haine totale, et qu'ils avaient essayé un jour de faire alliance en mariant les enfants, hop, entre eux, comme ça se faisait, et avaient construit ce château, signe un peu de paix entre les deux familles. Et on se demande, parce qu'il y a quand même pas mal de rappels faits par rapport à cette histoire passée, si lui, il n'a pas un lien, alors pourtant, il n'est pas du tout d'ici.
Oui, il y a un peu une intrigue, là.
Et c'est un peu une intrigue, et en même temps, quand on le lit, on a l'impression qu'il ne se passe pas plus que ça. Parce qu'on le lit, il fait à manger, il y a la nièce qui arrive parce qu'elle a pris vraiment trop, trop de poids, et qu'ils se disent que vu que c'est un très bon chef cuisinier, il va arriver à la faire maigrir. Donc, il y a cette jeune fille qui arrive et qui s'installe là. Enfin, il y a tout un tas d'intrigues. Il y a le domestique qui fait un peu tout. Là,
le majordome,
voilà. Qui, au départ, c'était lui un peu le patron à la maison, se retrouve totalement dominé par le chef. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais sous couvert de nourriture, de bons plats, petit à petit, la ville de Cobb se met quelque part au service de ce chef qui prend une place de plus en plus importante dans ce château. Et c'est succulent.
Mais écoute, merci. On a envie de savoir la suite, la fin.
Ben, il va falloir la lire, mon bon monsieur.
Eh ben oui. Ou tu vas peut-être me la dire pendant la pause musicale.
Peut-être, si tu es gentil.
D'accord. On lit toujours pas d'extrait. Hein. Personne ne veut lire.
Si tu veux.
Oui, cheveux.
Allez, je vais te lire une page quand qui m'a beaucoup plu.
Marlène, t'aurais pu... on n'a pas dit
si,
les maisons
on l'a dit, nous, que c'était aux éditions si, du Typhon.
Du Typhon. Mm-hmm. Non, pas vous.
Je sais pas. Est-ce qu'on a vraiment envie de lire...
Bon, allez, on ne dit pas. On passe. Merci, Valérie. C'était
oui.
sympa.
Mais non, parce que en fait, ils s'appellent tous Harold, Fanny Vale, Betsy. Et c'est,
ouais, on va éviter ton accent.
Ouais, j'ai un accent pourri okay. un peu.
Eh bien, Thomas, tu es un peu coquin.
Oui. Ouh, Thomas, j'ai les yeux qui rougissent.
Hein, Julia Toury, dès que sa bouche fut pleine, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Déjà, le titre est un peu affriolant.
Oui.
Effectivement, pour ma, pour ma première, j'ai accepté, je me suis dit, allez, la sélection, je la fais pas. Et puis Valérie m'a dit, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Alors...
Oh, t'as bisuté, c'est pas beau.
Non,
est-ce que, elle a est-ce fait que ça
je,
à tout le monde.
Est-ce que je, la vérité, c'est que par rapport à la sélection qu'avait fait Elodie, de la médiathèque départementale Missak et Miné Manouchian... Bon, les ouais. inverses, les Manouchians.
On va l'appeler Joël Batz.
On va l'appeler la médiathèque Joël Batz. Dans la sélection qu'avait fait Elodie des ouvrages qu'ils ont à la médiathèque départementale, il y avait Ulysse et Cyrano, que tout le monde a envie de présenter, et il y avait aussi Juliette Houry. Et quand Thomas est venu à la librairie, je n'avais que ces deux ouvrages.
Ah, donc Elodie avait déjà choisi Juliette Houry.
Elle nous avait déjà...
Et la couverture donne envie, déjà.
Bah, bien
effectivement,
sûr.
Ça fait une espèce de... C'est Ève. C'est vrai que voilà, son sens de Ève qui mange la pomme défendue, le fruit défendu. Mmh. Et donc voilà, c'est Dès que sa bouche fut pleine. Donc c'est le premier roman de Juliette Houry.
Oui.
Ça sera le seul.
C'est...
Non, je ne sais pas. Non, je sais pas.
Non, si, alors, il me semble que c'est le seul.
C'est le seul, ouais. Alors il y a encore moins d'infos que pour Valérie. Ouais. Juliette Houry, alors j'ai cherché. Juliette Houry, on ne sait pas grand-chose si ce n'est qu'elle est née en 1989. Voilà, c'est les seules infos que j'ai d'elle.
Et elle est venue présenter son livre aux Autonales de Sète l'année dernière.
D'accord.
Deuxième info.
Elle est sympa.
Ben, si j'étais arrivée le bonjour, oui, je suis arrivée la veille, le lendemain. Je me suis trompée d'un jour.
Et donc, c'est assez simple. C'est, en fait, tout est... Il y a un concept très fort, en fait, dans ce roman, qui est résumé dans la première phrase de la quatrième de couverture. C'est un monde où la place du sexe et celle de la nourriture sont inversées. Donc voilà, avec ça, vous pouvez imaginer...
J'adore le concept.
Les repas entre collègues le midi, bon bah c'est autre chose.
Je te rappelle qu'on est collègues.
Réfléchissez, qui travaille avec qui. Thomas, Lido.
Mais voilà.
Je crois qu'il m'a fait un appel du micro.
Ah ben, complètement, excuse-moi. Bon,
Marlène connaît tous mes collègues.
Non voilà, donc il y a tout cet imaginaire. Et puis c'est vrai qu'on... mais bah, nous-mêmes des expressions en français souvent en rapport en disant voilà manger le fruit défendu ou les plaisirs de la chair
c'est vrai.
Avoir la dalle entre guillemets aussi pour... donc en fait je pense elle joue un peu là-dessus mais moi je trouve qu'en fait une fois qu'on a passé le concept et les premières pages où il y a deux trois voilà blagues où elle reprend des expressions c'est pas un garde manger c'est un garde baiser on dit pas bon appétit on dit bon désir avant manger justement avant autre chose. Donc voilà, mais du coup, on suit quand même, je vais raconter, on suit l'histoire de Laetitia qui est en couple avec Bertrand. Ils ont une bonne situation à Paris, etc. Et c'est un peu un couple un peu plan-plan, où elle commence à s'ennuyer et elle, son appétit commence à se réveiller. Et on va suivre tout ça. Mais je trouve qu'une fois qu'on a passé le concept, et bah, je me trouve qu'on s'est un peu ennuyé, notamment parce que je trouve qu'au début, je me suis dit, ah chouette, ça pouvait partir un peu dans une histoire de roman d'anticipation, en tout cas un peu à la Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où elle raconte justement en disant qu'à l'époque, il y a quelques générations, les gens mangeaient comme nous actuellement, mais le gouvernement interdit, maintenant le gouvernement rationne avec des barres d'un goût totalement neutre et que tout le monde mange ça juste pour avoir les calories et vivre. Et à deux, trois passages, elle explique, mais moi j'aurais voulu justement me dire, mais va au bout de l'histoire, raconte justement pourquoi les arrière-grands-parents, eux, faisaient ça et plus maintenant. Et elle passe totalement à côté de ça. Elle raconte plutôt l'histoire, alors c'est intéressant, c'est une émancipation un peu féministe d'une fille qui va justement passer à autre chose. Tu voulais rebondir dessus hein ?
Non, ouais. Je voulais te poser une question, du coup, trois repas par jour, alors du coup, trois baisses par jour ?
Eh bien oui, mais des fois ils disent, ils sautent c'est pas des repas, ils peuvent sauter des ébats. Des fois, ça leur arrive comme on saute des repas. Là, dans l'histoire, ils disent ah non, aujourd'hui, j'avais trop de travail, j'ai sauté les bas du midi, je me rattraperai ce soir.
D'accord.
Donc, c'est moi qui donne la parole dans cette émission. Je suis le présentateur. Aludit, tu as un carton rouge pendant 10 minutes. Maxime, tu as lu ce livre. On va monter un peu le niveau.
Oui, il va en parler, ce sera plus.
Tu as le même ressenti que Thomas, Maxime ?
Je n'ai pas eu la chance de lire.
Ah, tu l'as pas lu.
Je l'ai pas lu.
Je lui ai fait des signes, il m'a fait. Oui.
Non, il n'a
pas dû se comprendre.
Il croyait que tu disais est-ce que tu es prêt à parler.
Est-ce que tu es prêt à parler. Moi, je ne sais pas. J'avais entendu l'avis très laudatif de Blanche Sabat que j'estime énormément, et donc je ne peux pas en dire plus, mais je pense qu'il a une grande valeur.
Mais après, tu m'as dit que finalement, tu as passé un bon moment.
Oui, c'est un bon moment. Après, si, quand même, si les gens veulent le lire, c'est intéressant. Même la fin, il y a une intrigue assez intéressante où on voit cette Laetitia dans son périple. Après, parfois, je trouve que le narrateur est trop présent. Ça m'a un peu. Il y a une demi-page de narration, après il y a deux dialogues et on repart sur une page de narration. Des fois, j'avais un peu envie de le dire, mais laisse tes personnages dialoguer. Valérie, tu l'as...
Oui, moi je l'avais lu. Le départ, j'étais gourmande de cette lecture parce que c'était original. Et après, je me suis ennuyée un petit peu. Mais pour le concept, pour avoir osé faire cette inversion, l'histoire, elle est sympa. C'est un premier roman aussi. Donc pour un premier roman, c'était très bien. Mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va écrire après parce que... Parce que là, autant c'est par rapport au sujet.
Je sais pas quand il est sorti. Hein,
l'été dernier, c'était rentrée littéraire. Non, mais pas rentrée littéraire. Je crois que c'est l'été. Non, c'est peut-être rentrée. Bon, par là. L'été dernier. Voilà.
Et par contre, c'est vrai que là, je cite un peu les défauts, mais elle décrit très bien les saveurs. À un moment, ça c'est assez intéressant. Il y a des beaux moments de description, donc gastronomique. Non, il y a quand même des beaux passages. C'est bien écrit, mais. Voilà, c'est vrai que le concept est fort, et après derrière on sourit à deux trois moments parce que mais effectivement c'est vrai qu'on, par contre, on se fait la réflexion de se dire c'est vrai que dans notre si on échangeait la place de ces deux choses dans notre vie, en fait on comprend bien un peu le rapport qu'elle fait, et puis effectivement il y a ce côté un peu ce regard féministe aussi sur l'émancipation d'une femme qui est aussi intéressant quand même.
Oui, nous avons tous le droit de manger un kebab dans la rue.
Oui, absolument. Merci Valérie, merci Thomas. Quelle maison d'édition, Thomas ? Parce que sinon, Marlène, après, elle m'engueule.
C'est chez Pocket.
C'est chez Pocket. Voilà. Oh, bah, d'accord, très bien.
Oui, c'est ça.
Merci. Allez, avant la pause musicale, Maxime, tu as choisi deux livres. Je te laisse choisir lequel tu nous présentes.
D'abord, pour m'excuser pour le manque de relance tout à l'heure. Je sais que tu ne me réinviteras plus pour ça. Et je suis désolé.
Non, tu vas juste louper une ou deux émissions.
C'est pas grand-chose.
Dis-toi que. Elodie, elle a encore 5 minutes à tenir sans parler. Hein. Donc pour elle, c'est encore plus dur que deux émissions.
Ah, mais tu fais vraiment ta punition ?
Je suis punie.
Ah, mais je croyais que tu n'avais plus rien à raconter, moi.
Allez, vas-y, Maxime, dis-nous.
Alors, j'ai vraiment fait genre mes fonds de bibliothèque comme je faisais mes fonds de frigo, vraiment, en tant qu'étudiant à la fin de mes partiels, vraiment en rentrant très tard de Paul Valéry. Mais j'ai pu trouver quelques petits trucs intéressants. J'ai retrouvé Lue dans brume de Hope Mirless, qui est une lointaine écrivaine vraiment du début du XXe siècle. Elle faisait partie du groupe d'écrivains où il y avait Virginia Woolf, E.M. Forster. Et c'était une des toutes premières à avoir écrit sur un récit de fantasy, un petit peu. Et elle a écrit, en fait, cette histoire qui raconte... La ville de Lue dans brume, près du pays de Dorimar, non loin de ce qu'elle appelle le pays de féerie où nichent les elfes et la magie que les humains ont oublié. C'est quasiment en fait une caricature de l'Angleterre victorienne. Et on va suivre en fait le maître, le bourgmestre en fait un petit peu de cette ville, Natalia Chanteclair, qui doit en fait faire face à un trafic de fruits magiques qui rendent les gens complètement accros, complètement drogués, surtout complètement fantasques. Et il va suivre du coup toute cette enquête, lui-même avec sa tête dans la lune qu'il a habituellement. Et c'est un super roman en fait, autant fantaisiste très coloré, mais aussi vraiment qui réfléchit à ce que peut être en fait la nourriture dans une société comme l'était la société victorienne dans laquelle a vécu Hope Mirless, où vraiment on était vraiment dans le contrôle du corps, dans le contrôle des passions, dans le contrôle de ce qu'on fait. Il y a quelque chose en fait presque un petit peu de Alice au Pays des Merveilles, où on la voit.
C'est ce que j'allais te dire, quand je t'entends parler, je suis dans Alice au Pays des Merveilles.
On trouve un petit peu vraiment ce rapport complètement décomplexé au corps, au plaisir presque rabelaisien. Et en suivant justement l'enquête de Nathaniel Chanteclair, on remonte justement à ce que justement la nourriture et cet acte en fait a quelque chose de magique un petit peu, je trouve. Voilà.
Quelle année est sorti environ hein.
Je crois que c'est le dernier roman de sa... Le dernier roman qu'elle a écrit, il était paru en 1926. Donc vous avez vraiment...
Ah oui,
c'est vraiment un tout premier roman bien avant Tolkien, mais encore teinté un petit peu des romans de William Morris.
Pas trop compliqué à lire
Non, pas du tout.
Pas du tout. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Et oui, c'est...
Attention, j'entends un bruit qui vient du fond.
La wildcard. La wildcard. Elle est là.
Ah oui, maintenant, une wildcard physique. Alors,
sauf que Maxime ne
pas.
Connaît pas le principe de la wildcard, je crois, la dernière fois. Mais en fait, c'est que celui qui a la wildcard a le droit de couper la parole à n'importe quel moment et de parler de n'importe quoi.
Alors, c'est pas vraiment n'importe quoi, mais il a dit le mot magique, Rabelais.
C'est la perche.
C'est ça. En plus, t'aurais pu la couper alors que t'avais pas le droit de parler, parce que c'est comme le Uno, tu vois, c'est la méga carte.
Ah, j'avais un joker.
Eh oui, c'est un joker.
Non, oui, effectivement, avec ma wildcard, je ne pouvais pas passer à côté de Rabelais. Je vous ai sorti un livre jeunesse qu'on a chez nous à la médiathèque départementale. Mais parce que pourquoi ? Bah parce que Rabelais, donc là, c'est la collection Il suffit de passer le pont, ça s'appelle.
De Dada.
Qui est sorti voilà, en 99 avec une image.
Alors, je précise, on a donné un casque à Elodie pour que elle, quand elle ne parle pas, dans le micro, elle s'en rende compte. En fait, ça ne marche pas. Et c'est la seule qui a un casque.
Non, ça ne marche pas. Mais regardez, je vous ai fait une petite photocopie de cette page 18.
Ah. Qui est pu nous faire un PowerPoint.
Comment Gargantua mangea en salade 6 pèlerins. Voilà. Pourquoi ? Parce que Gargantua, lui, il est considéré comme l'inventeur du concept de la gastronomie avant même que le mot existe au 19e siècle. Et dans son œuvre, il décrit les gastrolastres. Donc, vous savez, c'est ce peuple qui va vénérer le dieu Gaster, qui veut dire estomac. Et on lui sacrifie des mets incroyables avec des banquets, des buffets. Et donc, voilà, des écrits qui offrent un catalogue d'aliments et des plats de son époque. Il détaille avec précision les préparations culinaires comme, alors attention, je vous le cite, les œufs que l'on consomme, frits, perdus, suffoqués, estouffés, traînés par les cendres, jetés dans la cheminée. Voilà, donc l'abondance alimentaire, qui est un thème récurrent chez Rabelais, qui lui permet aussi de dénoncer un petit peu la société dans laquelle il vit. Les aventures de ses personnages, hein, qui sont ponctuées d'événements gastronomiques, tout le temps, par exemple avec Gargamel, qui va accoucher de Gargantua après avoir mangé planté de tripes. Donc voilà, donc je ne pouvais pas passer à côté de Rabelais.
Alors
Maxime a failli parler hier soir en se chauffer des livres.
J'avais songé à Gargantua en hommage. Voilà.
Et j'ai vu que tu en avais plein à l'arrière, hein, dans
vieux français en plus.
Mais quelqu'un l'a fait et c'était très bien.
Alors, c'est un livre illustré par qui
Alors, c'est un livre illustré par Hervé Di Rosa.
Voilà. On parlait de Seth, mais on y est totalement. Cet artiste, voilà. C'est toi.
Et toi qui voulais une petite citation comme avant ta petite pause musicale,
mais oui,
je pense que ça s'impose.
Et après, je balance.
Une citation célèbre de Rabelais qui est en rapport donc avec la nourriture. L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant.
Allez, Ayaktaes, pause musicale.
Apéro, quoi. Apéro.
Pause musicale, on est bon. Allez, on revient tout de suite.
Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du canif. C'est une musique qui plaît.
Et là, il nous écoute.
Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer.
les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Et je m'en vais, l'enceinte a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, et j'en ne vienne pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon des mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Dans mes rêves, moi je prends ma casquette. Deux ou trois cigarettes dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons, les mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons, les mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit.
On a repris l'antenne.
Absolument, Valérie.
T'aurais pas des chips dans la bouche.
Pas du tout.
Pour la petite histoire, j'ai appuyé sur les boutons démarrer alors que Ludo avait des chips dans la bouche.
Ah, ne sois pas provocante comme Lionel Shriver qui a écrit Big Brother. Oh là, on a enchaîné avec le jingle de fin. Bravo, Valérie.
Pourquoi ?
Alors, si tu reprends la main, il faut enlever le jingle de fin, parce que sinon, ah, ça s'enchaîne.
C'est moi qui ai mis le jingle de fin, c'est toi.
Pardon.
De fin, F-A-I-M.
F-A-I-M, mmh, exactement. Merci,
beau.
Thomas. Thomas, il a présenté son livre, maintenant, il va balancer des punchlines. Tu vois ?
Je suis le sniper de l'émission.
Maintenant. C'est ça. Alors, attention à vous. Donc, tu peux déjà t'entraîner sur Elodie.
Comme par hasard.
Comme par... Eh ben, c'est à toi, écoute, excuse-moi. Lionel Shriver, qui nous a écrit Big Brother. Alors... c'est Lionel, mais c'est une écrivaine.
Peut-être.
Ça a mis un blanc.
Je voulais savoir si elle avait bossé. Okay.
Mais non, alors, donc, les bio, c'est toi.
Okay.
Les bio, c'est ta partie.
Ah, ouais. Alors, d'ailleurs, elle s'appelle Margaret Anne Shriver. Elle est née le 18 mai 1957 à Gastonia, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Et en fait, dès son plus jeune âge, elle a décidé de s'appeler Lionel, rejetons son prénom de naissance. Voilà.
Écrit de façon très masculine. Pour le coup, je ne me suis même pas posé la question qui avait écrit ce livre. Il a été publié en 2013. Et donc oui, je n'ai pas choisi des publications très récentes, j'avoue. Un roman très percutant qui aborde le problème de l'obésité et des relations familiales, de la responsabilité personnelle qu'on a avec sa famille. C'est son cinquième roman. Et alors là, on est encore dans ce... Bah, ça fait un peu écho à ce portrait de l'Amérique qu'on avait fait lors de notre dernière émission.
Oui.
Un portrait sans concession de l'Amérique qui s'éloigne à grands pas de son rêve face au problème de l'obésité. Et alors l'histoire, ça suit celle de Pandora, qui est une femme d'affaires prospère. Alors elle fabrique des marionnettes à l'effigie de gens et on leur voilà, elle fait parler comme ça. Bon, bref, elle gagne beaucoup d'argent et la voilà qui va accueillir son frère qui s'appelle Edison, qui était un pianiste de jazz assez connu, beau gosse, qu'elle a parvu depuis plusieurs années. Le voilà qui débarque pour squatter son canapé parce qu'il a un petit coup de pas bien. Au bout de 4 ans, elle ne l'a pas vu et voilà qu'il revient avec 175 kilos. Il est devenu méconnaissable après avoir pris tout ce poids et tout le monde au départ essaye de faire comme si de rien n'était.
en disant bah non mais voilà tonton qui redébarque voilà. Et puis bah ça va déclencher une série d'événements qui vont bouleverser la vie de la famille. Cette femme, elle a deux enfants qui sont adolescents qui eux aiment manger avec leur oncle des pizzas, des hamburgers. Elle est avec un mari qui lui est dans un contrôle excessif de ce qu'il va manger, qui fait du vélo, qui compte un peu ses calories. Et puis bah donc des anecdotes, donc on se retrouve avec des placards vidés, tout le monde fait comme si de rien n'était, avec il s'assoit sur un siège, il le casse, il dit que c'est pas lui, bon bref. Donc un roman qui va explorer de manière un peu provocante les attitudes sociétales qu'on a envers l'apparence, le poids, du comment on réagirait. C'est son frère, elle l'aime, elle est un peu tiraillée entre la répulsion et puis la compassion, elle a envie de l'aider mais elle a la peur de mettre son couple en danger, d'ailleurs elle le met en danger. Donc ça secoue un peu le lecteur, on se dit voilà c'est une ligne un peu ténue, comment moi je me placerais face à cette situation, est-ce que voilà, il dit non mais ça sert à rien de faire comme si j'étais pas obèse, je le vois bien que je suis obèse, enfin je veux dire à un moment donné arrêtez de faire comme si c'était pas la réalité. Est-ce qu'on l'aide, ce qui veut dire que si on l'aide bah, c'est qu'il y a un problème, ça veut dire alors que pourquoi ce serait un problème, enfin voilà on se pose toutes ces questions, ce lien fraternel de dire bah voilà je suis capable de mettre mon couple en danger pour sauver mon frère, voilà mais est-ce qu'il a vraiment envie d'être sauvé, est-ce que c'est le sauver de le rendre mince, enfin voilà on se pose toutes ces questions. Donc c'est un rapport à l'alimentation qui est difficile, qui est compliqué, c'est en même temps un peu caustique, hein, il y a des super scènes assez drôles, c'est un peu d'humour noir, c'est assez perspicace, vraiment un univers, mais alors il faut pas que je vous spoil la fin, mais ouais c'est quand même un univers fictif qui est un peu déroutant, on se finit avec une fin à laquelle on s'attendait pas, donc voilà, qui critique un peu notre société contemporaine. Et ouais, donc,
est-ce que
coup,
c'est pas
conseille...
ce que j'allais te dire, est-ce que c'est pas un prétexte cette obésité pour parler d'autres choses finalement, des rapports entre familles?
C'est complètement un rapport familial, c'est-à-dire que alors dans ce livre elle va s'extraire de sa relation de couple pour vivre en couple avec son frère et l'aider à maigrir, donc qui vont vivre à compter les calories, à regarder ce qu'ils mangent. Il va perdre 75 kilos, donc ils vont compter. Puis finalement, il y a ces phases un peu de yo-yo où on se décourage, on recommence, on reprend. Voilà, donc c'est dans la douleur. C'est un accouchement un peu dans la douleur, ce bouquin. Et il fait mal, il fait du bien en même temps. Moi, je vous conseille ce livre.
Oui, alors c'est une personne étonnante, hein, cette écrivaine. Elle est née dans une famille presbytérienne. Elle a grandi dans un environnement conservateur et dans cet environnement-là, elle a décidé de changer de prénom, d'avoir un prénom masculin. Donc on imagine la suite de son évolution. Et donc elle prend souvent des positions sur le multiculturalisme, le droit des écrivains à explorer tous les sujets. Elle pousse au bout toujours. Je crois qu'elle est toujours en vie. Hein. Elle est née en 1957 et il me semble qu'elle écrit encore. Ouais. En tout cas, ouais, belle découverte quand j'ai fait sa biographie. Merci Elodie. Très intéressante. Valérie Boucher-Double, les nourritures du futur en bande dessinée. Allez, ça y est. Mais ce n'est pas une bande dessinée dessinée ?
C'est des bandes dessinées et c'est aussi un plaidoyer. C'est plein de choses à la fois.
Absolument.
Et c'est un hommage pour Marie-Jeanne. C'était sans aucun... en fait, quand on a choisi le thème, je me suis dit, tiens, de quoi je vais parler par rapport à... l'alimentation. Et je me suis rappelé le livre fraise chocolat qui je pense a fait rougir les joues de Marie-Jeanne pendant à peu près un an chaque fois qu'on se voyait après l'émission sur la sexualité. Oui, mais même moi, j'avais eu le rouge aux joues quand j'avais lu ce livre qui s'appelait Fraise chocolat. Non, mais là, c'était chaud. Hein, alors que je pensais que c'était une BD toute mignonne. Voilà. Et donc, on n'allait pas quand même reparler de ça puisque la fraise n'était pas la fraise et le chocolat n'était pas le chocolat dans cette BD, mais bien des choses beaucoup plus sexuelles. Voilà. Donc là, on parlait de nourriture et en fait, ce Boucher Double, c'est une BD qui à la fois, qui pourrait être un catalogue d'exposition aussi, puisque c'est tiré d'une expo qui a eu un Angoulême en 2023 ou 24, je ne sais plus quelle année c'était d'Angoulême. Peut-être c'est 23, je ne sais plus. Et en fait, ils avaient fait toute une thématique sur un auteur de BD et un chef cuisinier qui ensemble avaient collaboré pour écrire une planche sur la nourriture du futur sous la direction de Aurélia Horita, celle qui avait écrit la BD qui avait fait un peu rougir les joues de tout le monde, fraise chocolat.
Alors là, du coup, sur ce livre, c'est 14 binômes,
voilà. Soit 28
uniques
personnes.
Et inédits, voilà, entre des auteurs et des chefs qui nous racontent le futur de notre alimentation.
Et c'est, alors, non seulement c'est des auteurs de BD qui sont absolument incroyables, chacun avec son style va nous dire comment ils envisagent la nourriture dans le futur.
Allez, dis-nous les auteurs et Maxime, au fur et à mesure, il va dire s'il aime ou s'il n'aime pas. S'il connaît...
Maxime est très parti, occupé, pardon. Il est en train de ranger par ordre alphabétique le rayon grec.
Ah, pardon.
Ouvrir une bouteille de vin, chacun l'interprétera comme il le souhaite. Et en fait, c'est au-delà d'un catalogue très intéressant parce qu'on va avoir, j'ouvre totalement au hasard, sur qui je suis, Aurélia Horita, c'est totalement au hasard. Non, je vous jure.
Oui, j'ai
Elle
vu.
Est avec Alexandre Gauthier, donc, qui est le chef de la Grenouillère, un restaurant à la Madeleine sous Montreuil, j'ignore où c'est, mais ça doit être là-haut.
J'y suis allée, c'était sympa.
C'est en dessus de Clermont-Ferrand, je pense, ouais, dans le nord, ouais. Voilà. Et en fait, ils le voient, mais ça met quand même une dimension très vite, très engagée, très politique, très écologique. Et on voit un petit peu comment chacun envisage le futur. On voit les optimistes, les moins optimistes. C'est vraiment, vraiment bien fait de voir. Voilà, le point de vue des auteurs et des chefs cuisiniers par rapport à ce sujet qui est l'alimentation, qui est un des sujets quand même phares du futur. Voilà, donc c'est une petite BD. Alors, sachant que l'expo en question, elle était à Angoulême, mais elle tourne, je crois, elle tourne dans certains musées. Je crois qu'en 2025, ce sera à Dijon. Ben voilà, ça bouge, donc on peut quand même la voir. Et si on n'a pas le temps d'aller à Dijon en 2025... En même temps, qui a prévu d'aller à Dijon en 2025 ?
Oui, c'est vrai.
On peut acheter la BD et se régaler, avoir plein de... Là, j'ouvre une page au hasard, je tombe sur Mathieu Sapin qui a écrit la merveilleuse BD Edgar, qui a fait le making-of de Gainsbourg, Une vie héroïque.
Le frère de, voilà. Guillaume Sapin qui il a paraît. La nouvelle la dimension, dimension à Florac.
Ouais, il paraît.
Ouais. Non, la c'est nouvelle, fou, c'est fou, pas la quatrième, la nouvelle. Ouais, on s'arrête là.
Complètement.
Et
fou.
Qui propose un festival Vue du Québec qui va peut-être arriver prochainement.
Mais très bien.
Oui. Voilà, c'est au passage.
Voilà.
Très bien, Valérie. Mais merci, écoute, beaucoup. Un peu une voilà. BD. En plus, là, c'est
ouais,
une
c'est
histoire
ça. C'est
intéressante.
BD.
Mais il y a beaucoup de projets qui naissent à Angoulême, justement, mm-hmm. comme ça, de rencontres. On vous invite à y aller. On y allait avec Valérie. On aurait oui. plein d'histoires à vous raconter, mais ça sera un autre jour. Merci beaucoup Valérie. Allez, Marlène, on a fait la BD, on l'avait pas encore, on n'en avait pas encore parlé ce soir et on n'avait pas encore parlé de livre jeunesse. Donc oui. C'est bien d'en parler avec une enquête au menu. Et alors c'est toute une série, hein, Enquête au menu, et donc là tu vas nous présenter peut-être toute la série ou du moins ce livre qui s'appelle Le prodige d'Istanbul de Marie Orenga et Marie Touli.
Oui. Oui, mais pour une fois, on fait un peu de jeunesse.
Non, mais il faut faire de la jeunesse, c'est bien. C'est bien.
C'est facile à lire.
C'est fini, Elodie, tu peux reparler. Hein. C'est...
Attends, non, mais je suis tout
oui. Un piège.
Ben, du coup, c'est vraiment un livre gourmand parce que on va aborder à peu près toute la gastronomie turque, apprendre leur nom. Alors, je ne vous le dirai pas.
Ah,
c'est pas possible.
Je ne sais pas. Vas-y, fais-nous rêver.
Orthographié.
Ouais. C'est ça, orthographié. À la fin, il y a même, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a même des petites recettes. Donc, voilà. Ça donne l'eau à la bouche, donc si on a envie de les refaire, on peut. Voilà. Mais du coup, il y a le petit glossaire qui explique tous les termes et tout, mais franchement, bon. Il y a le kebab, à part le kebab qu'on connaît.
Ouais. Voilà. C'est quand même le meilleur sandwich du monde, le kebab.
Ah bon,
qui est allemand.
Qui est allemand.
Mais bon, il y a.
Allemand,
voilà.
Turc.
Il y a toute une description voilà, de la gastronomie. Turc, mais bon, là, c'est à Istanbul que ça se passe. Et en fait, c'est... Léo, il joue un peu les reporters et dans chaque livre de la série, en fait, ça va être mené un petit peu comme c'était une mini-enquête, mais c'est vraiment mini-mini, hein, c'est light. Hein.
Les enfants. Hein,
voilà, donc... il va avoir quelque chose à découvrir. Et là, il se trouve qu'il inscrit, du coup, ses parents sur un concours gastronomique qui va avoir lieu alors quelque part sur la planète, ils savent pas où, et bon ben là ils se retrouvent à Istanbul et en fait ses parents qui sont des chefs cuistots quoi, qui sont qui ont des étoiles, enfin bon bref, se retrouvent en concurrence avec deux autres, donc ce sont des jumelles qui sont aussi très connues dans le monde de la gastronomie, et ils vont du coup s'affronter à Istanbul. Et à Istanbul, en fait, c'est un jeune de 9 ans qui s'appelle Deniz, qui est là pour les noter et qui est surtout là pour découvrir absolument tous les ingrédients qu'ils vont mettre dans leur recette. Et ce petit Denis, il a il a la chance de pouvoir absolument déceler avec son palais absolument tous les goûts. Mais il est capable de dire jusqu'au nombre de feuilles de laurier qui ont été mises ou de branches de thym ou de cuillères de curcuma, enfin vraiment, on va jusqu'au bout du bout. Et donc Léo, il se dit, mais quand même, c'est un petit peu bizarre d'arriver à faire ça, donc la mini-enquête va commencer comme ça. Et comment je fais pour pas dévoiler la...
Allez, balance, on le lira jamais.
C'est pas long, en fait.
Là, on a tous plus de 25 ans, on le lira jamais, et les enfants nous écoutent pas, donc voilà, tu peux dire. Bon.
Donc en fait, bref. Et en fait, pas du tout, il a ce don-là, mais en fait, lui, il veut juste être un petit garçon comme les autres, et ça le saoule que ses parents le mettent sur des concours et fassent de lui une bête de foire, parce qu'il doit deviner absolument tous les plats et toutes les saveurs pour tout le monde, et voilà, et ça le gave. Et Léo, bah, du coup, va aider le petit Denis à avoir au moins une journée sur Terre comme un petit garçon normal.
Voilà. Ah, d'accord, ça pointe du doigt les enfants youtubeurs.
Voilà, ceux qui sont
parents,
un peu mis en avant par leurs parents. Voilà.
Est-ce que tu en as lu d'autres? Juste une question pour savoir si
De cela, non.
Pour savoir si c'est les mêmes héros, les mêmes personnages.
Alors après,
qui reviennent.
Léo, oui, il revient tout le temps parce que lui, c'est le héros.
Différents thèmes. Ouais. Voilà. Et c'est quel âge?
Là, tu donnes ça, je dirais entre CE et CM, quoi.
Ah ouais, d'accord, petit. Ouais.
Oui, c'est pas. Voilà, c'est vraiment pour les petits, quoi.
D'accord.
Voilà. Mais bon, c'était ça parlait de nourriture. Ça
mais
parle
non, mais
de
c'est
beaucoup,
très bien.
Beaucoup de nourriture, ça décrit les plats et tout. Franchement, ça donne envie d'aller
merci
goûter
beaucoup.
Des plats en Turquie.
Non, merci beaucoup, Marlène, de parler de livres jeunes pour la jeunesse, jeune public, parce que c'est important. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie?
Parce que je me demande si je t'ai donné un livre jeunesse dont je voulais parler autour de la nourriture ou pas.
Je ne sais pas. J'ai ce livre du chanteur de hip-hop, Jules. Non, mais tu en parleras après parce que là c'est à Maxime maintenant de nous présenter un livre.
Ah, très bien, bon, bah, j'étais pas prêt, excusez-moi. J'étais encore en train de me pochetronner.
Ça c'est parce que. Non, c'est parce qu'on parlait de littérature jeunesse et c'est son rayon préféré.
Oui, je me suis fait absorber par. Non, du coup, on m'avait dit la thématique c'était bonbon, c'était banquet, donc je suis allé chercher le poète le plus enivré qui soit, en tout cas.
Oh, il y en a un paquet quand même.
Fais attention parce qu'on va pas être d'accord.
Fais attention, on a un sniper avec nous, il va te balancer. Là.
Ouais, c'est... Je suis vraiment remonté au 11e, 12e siècle avec Omar Khayyam.
Alors on peut pas dire, on connaît pas. Je t'ai pas né.
On a pas fait d'apéro ensemble.
Il n'est plus vivant pour parler. Non, c'est un homme formidable. Il est très connu dans beaucoup de milieux pour avoir été un grand érudit, un mathématicien, un astronome, un géographe. Mais à côté, il avait comme occupation d'écrire ce qu'on appelle en arabe des roubayat. Ce sont des petits quatrains magnifiques. Et on les connaît beaucoup, notamment grâce à Rumi. Mais lui, Omar Khayyam, il s'est dit qu'il y avait un peu plus intéressant que la foi à traiter. Il s'est dit que lui, il y avait deux choses qu'il aimait bien. C'était les femmes, le vin et la vie. Et se dire qu'un jour, il allait mourir et qu'il avait qu'à profiter de ça. Donc il a passé en fait toute sa vie à écrire des petits sonnets profanes où il conspue et la foi, et les rigoristes, et la liberté, et le soleil, et le fait de se lever tous les matins pour s'enivrer. Il vient de...
c'est pas du Tibet ?
Du Perse, non, de Perse. De la Perse ancienne.
Oui, 11-12e siècle, oui.
Il a vécu à Nishapur, et il est né à Nashipur, et il a vécu une partie de sa vie à Samarcande.
D'accord.
Mais je crois qu'il était, oui, bien avant que les Mongols arrivent.
T'as pas bossé sa bio, Ludo.
Non. Mais non, mais j'ai pas eu les infos. Ouais, non, je crois qu'Elodie veut intervenir. Nashipur sur Nashipur. Non, tu faisais pas un geste, pardon.
Nishapur, pardon, excusez-moi.
Nishapur.
Elle voulait corriger la prononciation de Max.
C'est vrai, elle voulait vous donner la population à l'époque, en 11e siècle.
8.
Non, mais voilà, ça donne un art du coup très concis, très drôle, puisqu'il joue beaucoup sur des thèmes, notamment les. L'argile dont est fait l'homme et l'argile dont est fait le verre dans lequel on boit, justement. Et il se dit très souvent qu'en sortant de la verne, lui, un jour même, il sera de l'argile qui composera le verre dans quelqu'un.
Trop bien. Donc peut-être on boit dans Nashipur.
On boit peut-être un peu de Omar Khayyam actuellement.
C'est pas trop de l'argile, moi, mais bon. Peut-être la... Pensez-y pour la prochaine émission.
Ça commence par les mêmes lettres, argile, arc, opale.
Et quitte à faire plaisir.
Bon, là, il va falloir que tu nous lises.
Ben voilà, je vais te lire.
Ah oui, hein, c'est obligé.
Un petit quatrain qui pourrait presque servir d'épitaphe. Je vais boire tant et tant de vin que l'odeur en montera de ma tombe, et lorsqu'un buveur y passera, du seul parfum, il tombera ivre mort.
Oh, je la veux.
C'est pas ce que t'as dit au mois dernier quand tu t'es fait arrêter, Elodie. Alors, si on peut demander aux policiers de ne pas arrêter Elodie après cette émission, s'il vous plaît. Hein, pas chaque mois.
J'ai essayé de me faire discrète.
Mais merci beaucoup, mais Poésie. Oui, mais on passe de tout à tout dans cette émission.
Qui a traduit, ce que c'est intéressant, il faut savoir.
Ouais, qui a traduit.
Il a eu une traduction un peu tumultueuse parce que c'était un... Comment on appelle ça ? Un orientaliste anglais qui l'avait traduit. Il a beaucoup réarrangé les poèmes. Et aujourd'hui, il y a plusieurs éditions, parce qu'il est évidemment dans le domaine public. Là, moi, c'est chez Babel Actes Sud. C'est, comment est-ce qu'il s'appelle ? Hassan Rezvanian. J'aime beaucoup la traduction qu'il a fait parce qu'il s'est aidé d'un exégète et des manuscrits les plus complets qu'on ait trouvés, en tout cas. Mais voilà, il y a plusieurs éditions et plusieurs traductions selon les envies.
Merci beaucoup.
Je crois qu'Elodie avait une question.
Ouais, non, Elodie. J'avais pas de question, mais je suis ravie que tu aies un peu élevé le débat. Du coup.
C'est pour ça qu'on le paye, parce que ouais, c'est le seul qu'on paye.
C'était super. Et du coup, je trouve que sur cette émission qui est basée sur l'alimentation, on n'a pas parlé de tous ces grands auteurs classiques qui ont mis l'alimentation vraiment au devant de la scène et dans le cœur un peu de leur œuvre littéraire. Et donc, on a parlé des grands banquets de Rabelais, mais il y a plein d'autres auteurs qui ont mis vraiment l'alimentation au cœur de leur œuvre. Je voulais citer quand même Balzac, hein, qui lui oscillait un peu entre restrictions alimentaires et puis scènes d'orgie complètement gastronomique, qui pouvait, pendant qu'il écrivait, lui se restreindre ou manger des centaines d'huîtres, et puis ses personnages, eux, ne mangeaient pas. Dumas, qui a écrit le grand dictionnaire de la cuisine,
qui est
encore resté...
On en avait parlé, je crois, déjà.
Oui, on en avait parlé.
Voilà, c'est ça.
Proust,
alors la Madeleine de Proust. Alors attention, j'ai une question. Est-ce que vous savez, avant d'être la Madeleine de Proust, parce
les questions,
départ,
c'est pour Marlène.
Il n'était pas parti sur une Madeleine, hein, cette référence à la mémoire et ce rattachement à la mémoire. Qu'est-ce que c'était dans la première ébauche d'écriture avant d'être une Madeleine?
Moi, je sais, mais j'attends que les autres répondent, et sinon, je répondrai. C'était des croquettes pour chiens.
N'importe quoi.
C'était des chats.
Non.
Son oreiller.
Non.
Une boisson.
Non, toujours un rattachement alimentaire, mais c'était une tartine de pain grillé. Et après, il a raturé, il a mis cette Madeleine de Proust.
Ça aurait été loin à dire à chaque fois.
Voilà, c'était un peu plus long, et puis finalement, il a eu ce petit coup de génie.
Et ça aurait été bien pour l'expression. Tiens, la tartine de beurre grillé de Proust.
Tout dépend de l'accent que tu as.
Faire toute la prise de notes.
Oui, c'est vrai.
Ouais, tartine beurrée de Proust.
Voilà, dans les autres auteurs aussi, je voulais quand même qu'on cite les frères Goncourt. Un extrait du journal des frères Goncourt est vraiment, qui date de 1880, et c'est pour ça que je voulais te le lire.
Vas-y, pendant que tu tournes, je vais dire. Alors, Elodie vient de créer une chronique dans cette émission.
C'est ça. Sur l'alimentation.
Les anecdotes du thème.
On ne peut pas terminer cette émission sans
en
parler,
bien,
Ludo.
Faisons des
d'accord.
anecdotes sur le thème.
Parce
c'est
que
très
je
bien.
Voudrais te présenter ces écrivains qui adoraient manger et qui étaient la crème des écrivains de l'époque en 1880.
Allons-y.
Donc, extrait du journal des Goncourt. Un des frères qui raconte que le dimanche de Pâques, il dit « Aujourd'hui, nous partons, Daudet, Zola, Charpentier et moi, pour aller dîner et coucher chez Flaubert. » Donc, ils vont manger chez Flaubert à Croisset. Et il dit « Le dîner est très bon. Il y a une sauce à la crème d'un turbo qui est une merveille. On boit beaucoup de vin de toutes sortes et toute la soirée se passe à conter de grasses histoires qui font éclater Flaubert en ses rires qui ont le pouffant des rires de l'enfance. » Voilà.
Voilà, un turbo, excellent poisson qu'on peut pêcher à Charpal.
Voilà.
J'en ai déjà attrapé.
Et dernier auteur quand même, Zola, évidemment, avec Le ventre de Paris, qui drinque le mot ventre, déjà, et qui avait tout de suite compris que c'est par la nourriture qu'on rentre dans la vie des gens, que c'est par là qu'on définit un peu les inégalités sociales, le fossé qu'il y a entre les gens, ce qu'on peut s'acheter, ce qu'on ne peut pas s'acheter. Et voilà, il y a une abîme, un fossé qui se fait grâce ou à cause de l'alimentation. Donc je pense que c'était des auteurs qu'il fallait forcément évoquer pour cette émission.
Merci. Donc vous venez d'assister à la première chronique d'Elodie sur le thème
c'est
de... les classiques sur le thème de l'émission. Mais la vivement prochaine la prochaine émission.
Émission. Elle fait toute la demi-partie.
C'est ça.
Allez, il est, ça fait déjà une heure, mais on va un petit peu continuer. J'aurais pu vous parler de fin de Knut Hamsun, mais j'ai pas trop de temps. Je préfère laisser la parole à Valérie pour parler de...
Raphaël Calande, qui a écrit Les Mille Vies d'Ismaël.
Non, pas du tout.
Non. Mais tu, si voulais tu, pas, veux, tu voulais qui... pas que je parle de ce roman non, jeunesse.
Je voulais que tu parles de ce grand chanteur marseillais qui s'appelle Jules.
Réhabilite de suite le vrai parce que sinon je parle de Raphaël.
Je voulais te parler de ce grand dessinateur français qui s'appelle Jules, à qui on doit par exemple Sex and the City et 50 nuances de grec qu'on peut voir sur Arte, qui a été quand même qui a eu alors hop, je recherche mes notes, blablabla. Il a été nommé au grade des chevaliers de l'ordre des arts et des lettres en 2012, en 2016 grade d'officier de l'ordre des arts et des lettres. Il a, et c'est le nouveau Lucky Luke aussi. Il a fait le dernier Lucky Luke Jules et il a repris un livre d'un auteur que peu de personnes connaissent, alors que c'est un très grand auteur, Aitor Alfonso, pour La fin de l'histoire.
Et c'est génial.
C'est génial.
Si ce n'est qu'il faut qu'il change son nom, si tu dois le citer chaque fois comme...
Ben ouais, mais moi quand je fais les bios, j'ai tapé Jules et donc j'avais une photo de Jules. Jules donc, avec les doigts.
Si voilà. Je puis me permettre, ce livre, c'est de la bombe bébé. Mais c'est peut-être même pas de Jules ce que je viens de dire.
D'accord. Oui, okay. Il dit c'est la bombe bébé, Marseille style.
Donc c'est ça.
Non, pas du tout.
Pas non, c'est rien à voir.
N'importe quoi. N'importe quoi, Valérie.
Ah, mais écoutez, je fais de la littérature, pas de la musique. Non, La fin de l'histoire, c'est le livre intelligent et drôle à la fois, idéal dans ces périodes de bombance et de fêtes. Qui est sorti, je crois, l'année dernière, mais qui est toujours un petit régal pour, et pour le cerveau, et pour les babines, et pour les yeux. Donc, Jules, lui, il a fait des illustrations. Alors, on est vraiment dans les Silex and the City, et j'ai oublié l'autre.
50 nuances de grec.
50 nuances de grec, voilà. On a toujours un petit jeu de mots. En fait, on revisite l'histoire à travers la gastronomie. Le principe, toujours pareil. Gauche, une planche avec un dessin. Et à droite, un texte plus sérieux, mais bourré d'humour, avec toujours un titre un peu... Pardon. Avec toujours un titre un peu tapageur. Par exemple, là, je suis manger avec les Aztèques à l'arrivée des conquistadors. Et le titre du texte sérieux, c'est Aztec frites. Oui, mais bon, il y avait les pommes de terre et il y avait les Aztèques. Donc, il y a toujours un titre un peu... un jeu de mots qui, moi, me fait marrer. Et comme la mélodie du donner...
Oh, j'ai un donneur kebab.
Oh, mais j'aime beaucoup, mais ça me fait mourir de rire.
Alors, donneur écrit D-O avec deux points sur le haut.
Le donneur kebab. Non, mais c'est, voilà. Et à gauche, on a une planche avec une planche vraiment drôle. Et à droite, vraiment quelque chose de très sérieux par rapport à la période qui est citée et le reste. Voilà, le siècle, par exemple, des légumières. Pardon, au lieu du siècle des lumières. Enfin, j'adore ça.
J'adore les gens qui rient tout seuls.
Mais oui, non, je ne ris pas toute seule, je ris au livre.
Bon, ça, c'est un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année.
C'est génial. Alors, c'est le tome 1. Hâte, Dargo, si tu m'écoutes, dépêche-toi de publier le tome 2. Voilà. Non, c'est vraiment bien parce que c'est à la fois un cadeau qui est léger parce qu'on va rire, mais c'est aussi bourré de choses qui sont tirées de la vraie histoire. Donc la vraie histoire, et on se rend compte que l'histoire a été créée tout autour de l'alimentation, ainsi que la littérature, comme le faisait en référence Elodie.
Et merci beaucoup Valérie.
Donc on ne parle pas de Raphaël Calande avec son livre Les Mille
Vies d'Ismaël. Mais si, on en parle, tu as envie d'en parler, vas-y.
Non, allez. Mais c'est parce que c'est totalement dans le thème. On a parlé de poésie, de littérature jeunesse, on a parlé de romans pour adultes, de romans olé olé, et on ne parle pas pour les ados.
Si.
Quand?
Maintenant.
Eh bien voilà, c'est vas-y. Ça. Non, Raphaël Calande, c'est une
interview sur 48 FM de Raphaël Calande.
Mais absolument. Oui. Ah, mais tu la connais aussi?
Je l'ai interviewée.
C'est incroyable.
Ah, oui. Et c'est pour ça qu'on l'a fait venir, on t'a pas dit, parce que bim. Alors.
Non, Raphaël Calande.
Non, c'est à Thomas de parler.
Thomas, vas-y. Parle d'elle et moi je parle de son livre.
Ouais. Eh bien, déjà, c'est un pseudonyme, si je dis pas de bêtises. Elle est professeure de français.
Exact.
Donc, ça, son... sa carrière en parallèle, et c'est son premier roman,
si absolument,
je me dis toujours, et c'est un livre qu'elle a écrit Donc c'est l'histoire de Ismaël.
C'est ça.
Je m'en souviens encore bien.
Elle est venue ici.
Bon, peut-être, oui. Mais on est dans le thème.
Non, mais c'est d'accord, je comprends maintenant.
Je bosse, mais bah oui, je...
Bah bien sûr qu'il bosse.
Bien. Ok.
Et en fait, c'est ça parle donc d'un élève qui est en échec scolaire et qui un peu en dernière chance va se retrouver dans une cuisine. Et là, ça va être le déclic. Et ce qu'elle me disait lors de l'interview, c'est que c'est notamment en partie basé sur l'histoire de l'un de ses fils, en tout cas de son fils, qui lui aussi avait des difficultés scolaires. Et par la nourriture, par la cuisine, il s'est bonifié et il a trouvé son don et maintenant il travaille dans des très bons restaurants.
Oui, c'est
voilà,
ça.
Si tu veux continuer. Mais
oui, mais c'est ça. Mais c'est vraiment la nourriture, enfin le fait de travailler en cuisine avec ce que ça apporte.
Marlène Nellu,
comme quoi c'est comme quoi il est dans les prix sorcières, je crois.
Marlène Nellu.
Non,
qu'est-ce qu'il y a, Marlène ? Pourquoi tu ris comme ça ?
Parce qu'on ne comprend pas tes gestes.
J'ai des collègues qui sont foufous.
Non, mais on ne comprend pas. Quand tu parles avec des gestes,
non,
ça paraît
geste
obscène.
Marlène, pour savoir si elle avait lu, c'était très clair. Mais
non, c'était obscène, excuse-moi. Mais non,
absolument pas.
Non, mais c'est exactement ce qu'a dit Thomas. Et c'est vraiment autour de la nourriture. C'est plein de saveurs parce que le titre, c'est « Les mille vies d'Ismaël et autres saveurs ». Et c'est vraiment ça. Et c'est comment la nourriture, encore une fois, on l'a vu en littérature, on l'a vu dans le cinéma. Enfin, et là, c'est dans la vraie vie, puisque c'est quand même tiré en partie d'une histoire vraie. La nourriture va aider les gens aussi. C'est, je sais pas, il y a l'art-thérapie, mais il devrait aussi y avoir la
nourriture-thérapie.
Ouais, je pensais que tu allais me sortir un mot un peu plus sympa.
Tu as absolument raison.
Voilà. C'est un très bon livre pour jeunes, entre 14 et 99 ans. Mais parce que c'est sincère, c'est extrêmement bien écrit. Je pense que c'est dû aussi à sa profession, et c'est sincère dans le sujet. Et le point central, sachant que le lieu principal, c'est une cuisine de restaurant, je trouvais que c'était un joli clin d'œil à la journée, enfin au thème qu'on avait choisi aujourd'hui.
D'accord. Merci Valérie.
C'est aux éditions Sarbacane.
Sarbacane. Allez, une question pour savoir qui aura la prochaine wildcard. Et oui, c'est comme ça maintenant, il peut y avoir des questions. Jules a eu le prix d'Angoulême à quel âge ? Le plus prix gagne la wildcard. Elodie ?
28.
Ok. Valérie ?
36.
D'accord. Marlène ?
Une vingtaine d'années.
20.
21.
21.
52.
52. Alors, j'ai pas précisé, c'était le prix jeunesse. Oh non. Eh bien, Marlène, tu as gagné parce qu'il avait 12 ans. Donc, tu es la plus près avec, une 20, avec 20 ans.
La vache.
Eh bien, tu gagnes la wild card de moi qui ne l'aurais jamais.
Tu l'as déjà eu.
Très bien.
Ta vie est une wild card.
Je l'ai oublié.
C'était la dernière fois.
Très bien. Mais en fait, est-ce qu'elle a eu le prix Nobel pour son livre que tu viens de présenter ? Ton autrice.
Le prix Nobel ?
Oui.
Le prix Nobel de la paix.
De la paix ?
Oui.
Non,
oui, absolument.
Le prix Nobel.
Non, elle a
la littérature.
Raphaël Calandre.
Oui.
Avec son premier roman.
Oui.
Elle aurait pu avoir un prix Méduse éventuellement.
D'accord.
Non.
Donc elle ne l'a pas lu. Alors,
mais
j'ai
bien
quand
sûr.
Même parlé de Knut Hamsun. On va pas terminer sur quelqu'un qui n'a pas eu le prix
non,
Nobel.
Mais elle a eu un super prix, mais pas un prix Nobel. Alors que par contre, Maxime aurait voulu parler de quelqu'un qui a eu un prix Nobel, c'est ça ?
Non, c'est moi, je veux parler de Knut Hamsun.
Mais t'as lu un livre ?
Mais oui, j'ai lu un livre.
Ah, mais excuse-moi, je croyais que c'était Maxime.
Non, mais je voulais passer. En plus, Maxime l'a lu. Qui n'a pas lu Knut Hamsun, la fin ? Tu l'as lu ? Ah, tu l'as pas lu, c'est vrai ? Oh, mais quelle erreur !
Il ne comprend pas tes signes.
Ouh,
je sens tout juste de mes partiels.
Alors,
c'est quoi la littérature ?
Alors, ce soir, tu rentres et tu l'écris.
Avec
tu écris. Je dois lire Knut Hamsun avant la prochaine émission d'un livre sur le zinc. Alors, ça a été écrit il y a très très longtemps. Alors, j'ai pas. 1890, voilà. Knut Hamsun, fin, nous raconte l'histoire d'un écrivain qui ne parvient pas à vivre de sa plume et qui petit à petit s'enfonce dans la pauvreté. Alors, tous les jours, il lutte contre la déchéance qui le menace. Ce héros, alors on ne connaît pas son nom, il a de moins en moins de temps pour écrire les articles et histoires qui pourraient le sauver de la misère. Et en fait, dans chaque partie du récit, on retrouve la même structure. Il tente d'écrire un article qui le rendra célèbre et lui permettra de vivre de sa plume. Il n'y parvient pas, il se retrouve à la limite de l'indigence. Et quand sa situation est totalement désespérée, que l'on s'attend à le voir mort finalement, eh bien, dans les pages, il arrive à terminer son article, à le faire publier. Il a un peu d'argent, il en vit et ça se retourne. Et ça se répète encore et encore. Et c'est là où est le talent de Knut Hamsun, c'est qu'en fait, rien n'est lassant. rien n'est lassant dans sa plume. Il parvient toujours à insérer du suspense, une sorte de drame. Et on veut connaître le dénouement de cet auteur maudit qui n'arrive pas à écrire des livres, quoi. Et on le suit, on se dit, mais il va y arriver, c'est pas possible. Et donc, il partage des eaux avec des chiens. Mais c'est vraiment la déchéance pure. Alors, il vit, je ne sais pas si j'ai noté, c'est un auteur norvégien. Donc, ce personnage, il vit à Kristiana, merci, qui devait être Oslo, non, j'imagine, voilà, qui était Oslo.
L'ancien
à l'époque.
Oslo, absolument.
Voilà. Et donc, en fait, cette histoire, elle alterne entre tentative d'écriture, de mendicité, des moments de délire provoqués par la faim et le désespoir, ça revient. C'est à la première personne, c'était un peu rare à l'époque, des romans-là. Et c'est vraiment un roman pionnier du courant moderniste. Pour l'époque, c'est un style d'écriture novateur qui marque une rupture significative avec les traditions littéraires du 19e siècle. Première personne, et par rapport à vouloir créer une histoire, lui s'intéressait sur la psychologie du personnage, ce qui n'était pas habituel à l'époque. Et donc du coup, il a inspiré de nombreux écrivains, alors, dont Ernest Hemingway, Franz Kafka, Henry Miller, qu'on parlait dans la dernière émission, et bien sûr...
On aurait pu parler d'Henry Miller.
John Fante.
Encore lui.
John Fante, qui le cite dans tous ses premiers romans en disant Knut Thompson, c'est le roman qui m'a fait grandir. C'est un roman qu'il faut absolument lire, vraiment. C'est un roman extraordinaire pour l'époque.
C'est pas très gai pour ces fêtes de fin d'année, quand même. Hein.
C'est pas très gai, mais un peu quand même, parce qu'on a de l'espoir pour ce personnage qu'on en vient en fin de suite. Et c'est un roman où le dénouement arrive à la dernière page. Voilà. Donc
après, moi, j'ai trouvé que dans ce roman, il y avait beaucoup d'autodestruction. On voit qu'à chaque fois qu'il peut sortir un peu de ce marasme et de ces difficultés, on dirait qu'il souffre volontairement, le gars. Il y a une aliénation.
Mais c'est ça.
Il veut rester en marge de cette société. Il se dit,
il n'y arrive pas.
Il se dit, ouais, j'ai tellement faim, je ne sais même plus si je suis un homme. Enfin, c'est vraiment un peu... C'est douloureux ce livre. C'est pas une bonne conclusion de fête de fin d'année, je trouve.
Absolument. Fini par l'autre conclusion, t'en avais une autre ?
Non, mais j'en ai une autre
en plus. La cantine de minuit ?
J'en ai une autre super gay. Alors, petit bémol de cet écrivain.
Je vous laisse conclure.
Il a un peu collaboré avec les nazis à l'époque et donc il a été mis en marge de l'histoire et il est mort dans l'indifférence. Voilà, il a eu une grosse amende et il est mort d'indifférence.
C'est ça ta conclusion ?
C'est ça.
Ok, vas-y Elodie.
Alors moi j'avais une jolie citation de Colette, si vous voulez, qui pourrait nous faire conclure. Colette qui disait « Ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine si vous n'êtes pas capable d'un petit peu de sorcellerie. »
Sur ce, préparez vos dindes et vos chapons de Noël et on vous retrouvera bientôt. Le mois prochain, c'est l'émission des enfants. Mmh. Et on vous retrouvera en janvier avec une super émission. Elodie l'a travaillé. Ça va parler de crottes de nez.
Une émission bien scato.
Ça va être génial. Allez, on vous quitte avant qu'elle en dise davantage. Merci.
L'émission de la digestion.
Voilà.
On pourrait aussi.
Et comme dirait l'autre.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Des livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.